Bonjour.
Oui, ça va?
Bonjour. Qu'est-ce que c'est le
Mon nom au complet, c'est Cheikh Amala Doucouré. Mais mon nom artistique, c'est Dread Amala. Amala, c'est plus court.
Enchanté.
Bien arrivé, voilà, welcome.
Merci.
Vous êtes chez vous, t'inquiète pas. Ici, c'est mon bureau, c'est mon magasin, c'est mon tout. Parce que dès que j'arrive ici le matin à 8h, je ne rentre que 23h. Je fais tout ici. Moi aussi, comme j'ai une émission, c'est là où je prépare toutes mes émissions, ma sélection. Et en même temps, c'est mon magasin de vente de disques vinyles, cassettes,
c'est CD. C'est le seul magasin de vinyle à Dakar?
Ben oui, quand on dit magasin, oui, c'est le seul. Peut-être qu'il peut y avoir d'autres personnes qui vendent de gauche à droite, mais en tant que magasin immobilier, ça, c'est le seul. Quand les CD ont remplacé les vinyles, les gens, dès qu'ils te voient avec... Ils disent, ah bon, toi tu veux ça? Oui, mais demain je t'emmène un paquet. Parce qu'ils ne les utilisaient pas, ça les encombrait à la maison et on te les donnait cadeau. Mais depuis 20 ans maintenant, c'est devenu un gros business. Les gens sont racontés partout que sur Internet, c'est des millions, c'est des milliards. Donc maintenant, personne ne les donne cadeau. Hein. On les vend. Et souvent, on te dit, ouais, ça coûte des millions sur Internet. Alors que le disque ne vaut même pas 10 euros. Ben, mais on se débrouille. Donc, même hier, j'étais quelque part, j'ai acheté un paquet de presque 40 disques. Donc, chaque jour, je vends. Chaque jour, j'en achète. Voilà ma stratégie. Je vends les CD, je vends les cassettes. Parce que moi, j'anticipe. Je me suis dit, puisque chez nous ici, personne n'a imaginé que les vinyles allaient revenir, ils sont revenus. Et là, depuis 20 ans, tous les vinyles qui ont fait le voyage, l'Amérique, la France, la Belgique, le Canada, vers l'Afrique, ils ont fait pendant ces 20 dernières années le chemin retour. Les gars sont venus, ils ont pratiquement tout racheté. Je me suis dit, ce business de vinyle, au grand maximum, en tout cas pour ce qui est les premières éditions, peut-être c'est 5 ans, après il n'y en aura plus. Les rééditions commencent à faire floraison en Europe. Respect, voilà. Les stocks sont épuisés pratiquement. Je me suis dit, certainement, si les gens reviennent à l'analogie, ça veut dire, après le vinyle, ce seront les cassettes. Et je commence à racheter aussi. Je dis au mec, quand tu as des cassettes chez toi, amène, j'achète. Et j'achète les cassettes aussi chaque jour. Regarde, tous ces cartons, ils sont remplis que de cassettes.
Non.
Ben oui, tous ces cartons. Les cassettes, je pense qu'après, elles vont venir. Parce que les vinyles, comme je l'ai dit, c'est fini dans 5 ans. Hein. Les quelques gars qui ont des vinyles chez eux, ce sont des personnes qui ne sont pas dans les besoins. Ceux-là, tu leur proposes 1 million par disque, ils ne vendent pas. Et ils ont de très, très, très bons disques. Et on va rigoler. On guette, quand ils seront morts, les enfants vont s'en débarrasser, on les achète. Lui, il a des milliers chez lui, mais il ne vend pas. C'est un professeur d'université, il n'est pas dans le besoin, c'est un collectionneur comme moi. À lui, tu lui proposes 100 000 francs par 10, il ne vend pas.
Ça, c'est une œuvre d'art, le vinyle, avec les textes qui étaient derrière. On apprenait la chanson en anglais, avec tout ce qui est comme photo, tout ça, la fiche technique. Le grain, le picotement, craquement des vinyles, ça c'est. Personne ne peut reproduire ça sur des supports numériques et autres. Et donc il y a un lien même charnel avec le produit, le vinyle. Moi je crois, contrairement à lui, je crois que le vinyle va revenir.
Non, il est revenu déjà. Je dis, le vinyle, il revient, mais ceux qui descendent en Afrique pour acheter les pièces rares en version originale, dans 5 ans, il n'y en aura plus.
Il n'y en aura plus. Depuis longtemps, voilà. Les Island Records, les groupes Mango, Island Records, Black Ark Music, tout ça, c'est les vinyles classiques qui coûtent aujourd'hui minimum 500 euros. Il y a des vinyles rares. Par exemple, un Bob Marley Island Records original avec l'étiquette Island Records vert, jaune, rouge ou Mango, ça vaut une fortune. Ça, en Europe, aux États-Unis, introuvable. où le vinyle, l'industrie du vinyle, moi je venais, il m'a vendu beaucoup de vinyle, mes collections là. Oui, parce qu'il m'a donné et vendu quoi. Parce qu'on a senti assez tôt, et donc même quand on arrivait, il y avait, tout était presque parti déjà.
Vous savez, du mal vous savez combien vous en avez, vous, chez vous, dans votre collection?
J'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup. Non, et puis j'appartiens à un collectif, on ne le compte plus à un moment. À un collectif, c'était en France, on partageait les vinyles, et c'est des grands collectionneurs, ils ont minimum ça.
C'est quoi et le collectif?
Non, enfin, c'est des Rasta, vraiment, on est dans une communauté Rasta, ah, on faisait des sound systems. Okay. Des sound system, il y a les Good Vibes sound system, il y a Chalice sound system qui est à Lille. Que j'étais, on était à Ypres il y a 3 semaines à peu près pour un sound system, donc en Belgique.
Ah oui.
Et donc voilà, Ypres, c'est rare de jouer à Ypres, improbable.
C'est vraiment...
Donc on est arrivé dans l'avion, on s'est dit, mais c'est bien sûr que c'est ici, nous, on, le public, le peuple ne ressent pas un peuple mélomane reggae. Mais bon, c'était bien à l'origine. Comme quoi, le reggae, c'est dans les lieux les plus improbables que reggae musique et même la musique, quoi, c'est-à-dire, bon. Le punk, reggae, tous ces styles-là. Je pense que ça a un peu révolutionné notre rapport au sound system, au live. C'est pas plus mal. Ah non, j'arrive. Non, non, non. Parce que nous, on est amoureux des vinyles.
Lui et moi, on est des amis de longue date. Là, on est dans un projet de bouquin qu'on va écrire. Mais moi, j'ai pas le temps. Je suis dans mes business. Ce que j'arrive à écrire, lui, il passe le soir, il collecte.
Ah.
Après, il met dans la machine.
Ah ouais,
passé.
C'est ça, le papier
voilà,
que vous avez
c'est ce que, je suis désolé, c'est ce que j'ai fait ce matin.
Même une ligne, c'est bon.
Voilà, c'est bon, là,
vous
après.
Pouvez, hein? Vous pouvez nous lire un extrait?
Oh non, ah là, ah, le livre n'est pas encore fait.
C'est
non,
okay.
Non c'est pas possible.
Attends, ça va sortir.
C'est quoi,
on veut le sortir vraiment d'ici mois de mai.
On lit pas des trucs qui sont pas finis.
On va aborder le reggae de manière générale, le reggae en Afrique, tout ça. En Afrique.
On va parler parce que notre. Projet, c'est quoi? On s'est dit, on est amateur de reggae, on est dans ce courant philosophique Rasta depuis bientôt 30-40 ans. Et jusque-là, tous les documents, tous les livres, tous les bouquins, tous les films documentaires, à plus de 90%, sont faits soit par les Américains, les Français, les Belges, en tout cas, pas les Africains. Alors que cette histoire, dans sa globalité, à 90%, concerne l'Afrique. Donc, pendant que nous y sommes encore, parce qu'on a presque dépassé 50 ans, on prépare la relève. Avant cette relève, on va essayer d'écrire et mettre sur le marché un premier bouquin. Après, voir s'il y a possibilité d'écrire encore. Mais là, ça, c'est un projet qui est en marche et on veut le sortir au maximum dans 5-6 mois.
Et vous y travaillez tous les deux ou il y a encore plus de gens qui...
Non, on est les deux. On est les deux, on va le faire à deux.
On a animé beaucoup de conférences dans le passé. On nous a invités à animer des conférences reggae, à parler de vinyle. À un moment, on s'est dit, non, il y a un problème. Pourquoi on ne ferait pas un ouvrage où l'on raconterait les trajectoires du reggae, de la musique, le rapport des populations, tout ça?
Vous avez 3 à 6 lignes.
Okay, c'est
pas moins, pas plus.
Magnifique.
J'ai découvert le reggae au tout début des années 70. Une rencontre qui a tourné à l'avantage de cette musique jamaïcaine, qui m'avait immédiatement séduit et enchanté. Comme beaucoup d'autres personnes, nous autres Africains, nous avons pour la plupart d'entre nous aimé le reggae avant de le comprendre. C'est un problème de sentiments et de sensations, comme le dit dans une chanson « Who feels it knows it ». Ceci peut nous renvoyer au président poète sénégalais Léopold Sédar Senghor, qui disait que la raison est Eden, l'émotion est nègre. Who feels it, knows it. Celui qui le sent, il le connaît.
Mais Bob Marley a rajouté, they feel it, but they don't know it. Ils le sentent, mais ils ne la connaissent pas, cette chanson, ce genre musical de reggae.
Who feels it, knows it.
Voilà,
voilà, je l'ai trouvé, il est là.
Ah, voilà. T'es un sorcier, toi, hein. T'es un sorcier.
Ça, mais dites-moi un autre titre ça. Et je vous le trouve tout de suite, là.
T'es un sorcier. Et pour la petite histoire, il y a quelques jours, le président du Ghana lui a attribué la nationalité ghanéenne pour service rendu à la nation ghanéenne, Rita Marley. Ça fait...
Who feels it now? The thought. I said I feel it. Monoblog.
Ça, on les écoutait, on les dansait quand moi j'avais 8-9 ans. Parce que dans toute l'Afrique, avant les indépendances, il y avait quelques boîtes de nuit gérées par les Français, l'armée française, les fonctionnaires français. Il n'y en avait pas beaucoup quand même, mais quelques-unes. Mais après les indépendances, tout de suite après les indépendances, les radios nationales africaines, bon, sénégalaises parce que je suis sénégalais, les samedis soirs, on appelait ça soirée dansante. Après le journal de 22h, à partir de la fin du journal, 22h, 22h30, il y a un animateur qui s'installait et il mettait de la musique jusqu'à minuit, 1h du matin. Il n'y avait pas encore de musique nationale sénégalaise ou bien très peu. Donc on mettait de la variété internationale, les soul music américaines, la musique afro-cubaine, la musique française, Johnny Hallyday, Charles Aznavour, Enrico Macias. Après, voilà. Et souvent, au milieu du village, sous l'arbre à palabres, les jeunes filles et les jeunes garçons faisaient des attroupements et ils dansaient avec la radio nationale jusqu'à la fin des émissions et tout le monde rentrait. Au fur et à mesure après, les gens se sont organisés, que ce soit dans les grands centres urbains à Dakar, que ce soit au fin fond dans les villages, il y avait ce qu'on appelait les clubs. Il y avait des clubs à Vanas, Rio, des jeunes de même génération qui s'organisaient, 15, 20, 30, 40 personnes, garçons et filles, qui cotisaient. Et chaque semaine, on allait au magasin, on achetait les dernières sorties. Donc il y avait dans les maisons, au niveau des clubs, toute une panoplie de multitudes de 45 tours. Ça peut varier de James Brown à Jimmy Cliff, de Aragon à Charles Aznavour. Et moi, j'avais 8 ans, nous on écoutait la radio et on organisait nos propres soirées. Et là, ah oui.
À 8 ans?
Oui. Ah ouais, bien sûr. 8 ans, bien sûr.
C'était des soirées dansantes, il y avait les enfants et les adultes ou que les enfants?
Les soirées dansantes, ça se faisait au milieu du village. Donc personne n'était interdit. À moins que ta maman te dise non, il fait nuit, rentre à la maison. Mais nous, on venait regarder nos grands frères, nos grandes sœurs, nos tontons danser. Bon, on dansait aussi.
Qu'est-ce que c'est l'arbre à palabre? Vous avez parlé de l'arbre à palabre.
C'est l'arbre à palabre.
Qu'est-ce que c'est l'arbre à palabre?
Bon, je vais vous expliquer. Attends, je vais donner au mec sa cassette, il va partir. L'arbre à palabre, ça veut dire l'arbre sous lequel on réglait tous les problèmes du village. C'est aussi l'arbre sous lequel on organisait toutes les cérémonies du village. Cérémonie de jouissance, mariage, baptême, ou cérémonie de deuil, de décès, ou de règlement de conflits dans la communauté. Donc, c'est sous cet arbre à palabre qui se trouve le plus souvent au milieu du village que, une fois après le souper du soir, les jeunes de la même génération se retrouver, organiser leur soirée. Ça peut être une manifestation traditionnelle, parce que moi je me rappelle là où j'ai grandi, nous avons notre propre orchestre traditionnel du village. On appelait ça le siko. C'est quoi? Il y avait des tam-tams, les femmes, les garçons arrivaient et faisaient un cercle. Et les batteurs de tam-tam peuvent être 2, 3 jusqu'à 4 qui tapaient et tout le monde chantait. C'est ça la base de la musique africaine. La base de la musique africaine, tout le monde était chanteur. Nous, quand on était jeunes, on allait regarder nos mamans qui organisaient leur spectacle le soir. Et il y avait quelqu'une qui inventait sa chanson, qui se mettait au milieu du cercle, qui chantait sa chanson et tout de suite, toutes les autres femmes, ça peut être 20, 30 personnes, faisaient le chœur. Et c'était extraordinaire. Je vais vous êtes bien tombé. Voilà, je vais vous donner un exemple de la musique traditionnelle africaine. Et ça, nous sommes au sud du Sénégal, la région naturelle de la Casamance. Et ça, c'est l'ethnie Diola. C'est terrible. Augmente-moi un peu le volume. Un peu. Voilà. Ça, c'est l'orchestre villageois. C'est ce qu'on appelle le Beugerebou. Beugerebou, c'est le tam-tam Diola. Et y a deux ou trois petits percus, plus un gros tambour. Et il y a d'autres personnes qui ont les machins, les kessin-kessin. Et c'est ce que tu vois. Ça, c'est le traditionnel Diola.
Oui,
ça c'est récent, c'est... ça fait pas 10 ans ça. L'orchestre existe toujours en Casamance. T'as vu? Là, il y a la guitare. Après, les percus vont arriver, ça va pas tarder. Ça c'est la guitare traditionnelle. On appelle ça le conting. Hein, en même temps, on danse.
Est-ce que c'est toujours les femmes qui chantent en premier?
C'est celle-là qui dirige la chanson. Et les autres font le chœur.
C'est toujours une femme qui démarre la
ça
première.
Ça peut être une femme, mais y a une au grand maximum qui démarre la chanson, qui donne le thème et les autres font le chœur. Bon, je comprends pas Diola, mais chaque chanson a une signification. Où on chante la beauté de la nouvelle mariée, où on chante la générosité d'un villageois qui aide tout le monde, où on chante la bravoure d'un garçon du village. Ah, c'est le saï-saï, hein?
Non,
c'est le saï-saï.
Comme ça.
Voilà.
Est-ce que vous pouvez nous décrire comment on fait, comment vous dansez?
Au fait, moi je suis Wolof de culture, mais j'aime bien la culture Diola. Et ils sont très enthousiastes quand ils dansent selon la fête. Il y a les circoncisions ou les mariages. Oui, c'est ça. Sinon, moi je suis quelqu'un qui aime la danse. Parce qu'il y a un artiste qui dort en moi.
Lui, c'est un écrivain. Il a au moins 4 à 5 bouquins. Il a fait la France entre Strasbourg, Nice, etc. Il est revenu au pays, ça fait plus de 30 ans. Maintenant, il écrit. Et comme il a fait la formation cuisinière en France, là, il ne fait pas de cuisine, mais il écrit.
Je suis vieux maintenant.
Voilà, il a écrit des bouquins qui parlent de la cuisine sénégalaise, illustrés avec des photos et des. Peut-être à l'occasion, vous pourrez vous en procurer. Il est très, très. Il excelle dans ce domaine.
J'écris sur la linguistique.
Voilà. Pour il permettre. Il apprend aussi les gens à parler Wolof, le français au Wolof ou le français à l'anglais. Il écrit dans des bouquins comme ça. Il s'appelle Ababacar Gueye.
Comment vous vous appelez?
Ababacar Gueye. Oui.
Donc vous êtes musicien, guitariste, danseur, cuisinier?
Non, je ne suis pas danseur, mais j'aime la danse. J'aime la danse, mais je ne suis pas danseur. Mais oui, j'ai le feeling danser, pour danser. Mais moi, je ne sais pas danser. Tu as vu ce que j'ai fait tout à l'heure?
Ah, mais il ne fallait pas qu'on apprenne avec lui alors.
Ah, non, attendez, je vous trouverai un bon maître de danse.
Un bon danseur, c'est quelqu'un qui a le feeling, qui a le rythme. Et moi, j'ai le feeling, j'ai le rythme, j'aime danser. Donc, je ne suis pas un danseur professionnel hein, dans ce sens-là, mais je suis un danseur parce que j'aime danser. Même dans ma chambre, je danse tout simplement en émettant des anamodoré comme je fais, voilà, j'ai ça dans en moi, hein. Et ça c'est sûr et certain. Bon, quant à faire un métier, non, moi je ne suis pas un danseur de métier.
Tu sais, je vais revenir encore. Quand je lisais les 6 lignes de mon bouquin, donc mon prochain bouquin, quand j'ai fait allusion à Senghor qui dit l'émotion est nègre et la raison est Eden. Ça a un gros sens. C'est-à-dire les Africains. Ah, Hélène. Ah, parfait, voilà. Voilà, il va corriger. Ouais. Tu fermes le micro, il ne faut pas raconter mes bêtises là-bas. Là où j'ai dit, Senghor, l'émotion est nègre et la raison, c'est Hélène. Hein. Voilà, ok. Tu es un professeur, tu pourras corriger toi-même.
Je ne suis pas d'accord avec ça.
D'accord. Donc, nous, on a la force de la sensation en Afrique. Il fait tard. Si c'était la journée, je mets n'importe quelle musique et j'ouvre à fond. Tu vas voir le premier garçon qui va passer. Il peut ne pas, il s'en fout, il connaît même pas la chanson, mais il sait comment danser le rythme. Excusez-moi, moi je vais dans les soirées, dans les concerts. Je vois vous les Occidentaux quand on met le savoir de Youssou N'Dour, vous vous remuez comme si on vous a branché à l'électricité. Les Africains, ils ont ça dans le sang. Chaque ton qu'ils entendent, ils savent comment on le danse. Ça, je ne blague pas. Hein. Ouais. Ça, c'est notre force. Et je ne peux pas te l'expliquer, je ne sais pas comment, mais c'est comme ça la réalité en Afrique. Ouais. On a le sens du rythme.
Ouais, mais il y a des gens qui dansent comme vraiment nuls, par exemple Youssou N'Dour. Youssou N'Dour n'est pas un bon danseur.
Non.
Oui.
C'est le plus nul danseur
du Sénégal. Oui, absolument.
C'est le plus grand chanteur du Sénégal, oui. Mais il est le plus nul
en danse.
En danse.
Mais il danse à sa façon, d'accord, mais
oui.
Bon.
Comment il danse,
Youssou N'Dour? Youssou N'Dour, il fait... C'est ce qu'il est de gauche à droite.
Ouais. Il est un peu raide, c'est ça?
Exactement, ouais. On ne voit pas les pieds danser, ouais, avec un diapason, avec le tempo du rythme. Bon, pour son corps, il penche de gauche à droite, comme ça, oui. Et moi, j'aime beaucoup, hein, parce que je trouve que c'est naturel, hein, sa façon de le faire. Mais bon, il n'a pas ce à quoi on s'attendrait à un musicien africain qui danse en chantant. Oui. C'est bizarre, hein. Donc, il y a des choses qu'on dise comme ça, auxquelles je ne suis pas tout à fait d'accord. La raison est Hélène et le quoi encore?
L'émotion est nègre et la raison est Hélène.
Ouais, c'est-à-dire comme si les autres races n'ont pas d'émotion. Bon, c'est-à-dire que bon, c'est vrai que le nègre est sensible et il peut le manifester dans ses émotions. Oui, mais je pense que l'émotion et la raison est universelle. C'est ce que je pense réellement, absolument, et universel, absolument. Ben oui.
Tu vois, c'est ça moi ma richesse, c'est ça ma fortune. J'ai fait 40 ans de musique, de radio, je ne suis pas pauvre. Parce que quand on a des milliers d'amis, on n'est jamais pauvre. Ouais, mais je veux dire, je ne me suis pas trop intéressé à la recherche de la fortune. Mais je suis riche, vous avez vu le temps que vous êtes là, que des personnes ressources que vous avez trouvées ici. C'est ça, et ça c'est dans l'espace de 30 minutes. Un professeur d'université, un cuisinier, un écrivain. Et si vous restez là dans une heure de temps, vous allez certainement avoir un féticheur. Hein?
Qui va vous transformer en
personne. Qui va vous aider à trouver de très bons maris, très riches. Restez là jusqu'à 23h, quelqu'un va venir. Un féticheur.
Yes, I. C'est moi, Dread Amala, depuis Dakar, Sénégal. J'écoute la radio Monobloc.
Balbon en bouche là. Radio Monobloc.